Monsieur le préfet, monsieur le directeur, mon cher Johan, chers amis, vous avez vu à ma tête qui est représentée sur les écrans que mon anniversaire correspond à une date qui probablement doit voisiner le néolithique tardif. Je voudrais quand même commencer mon discours en faisant la louange de Johan. Il est très important de dire à Johan aujourd'hui et à Maureen, sa compagne, que son formidable génie et son enthousiasme communicatif ont donné naissance à cet institut et que cet institut est parmi les choses les plus indispensables de notre temps. Et par conséquent, je voudrais d'abord lui dire merci et que nous lui disions merci et que nous l'applaudissions pour commencer. La courtoisie raffinée de Johan Negrosiou a placé donc notre réunion dans des dates auxquelles nous venons de faire allusion, mais aussi non loin du 29 septembre. Et je voudrais méditer pour commencer sur cette date, parce que le calendrier annonce, comme vous le savez, à cette date, la fête de la Saint-Michel. Et vous ne savez peut-être pas que cette date ou ce temps ne concerne pas, et de loin, que ma petite personne. Voici. Vous le savez sans doute, la France est divisée en deux parties linguistiques. Le nord, où se côtoient plusieurs langues d'Oyle, dont le Picard. Et le sud, qui est une zone où coexistent plusieurs parlers d'oc. Le Limousin, l'Occitan, le Béarnais, le Franco-Provençal, et ainsi de suite. Eh bien, je voudrais vous avouer pour commencer que ma langue native n'est pas la langue française qu'aujourd'hui je parle, mais le gascon, c'est-à-dire l'une des variables de cette langue d'oc, qui est aussi romane d'ailleurs que le roumain de Johan. Nous parlons donc tous les deux une langue native, romane, moi le gascon et vous, Johan, le roumain. Et dans ce pays gascon et dans les autres pays d'oc, ces pays étaient jadis et naguère complètement envahi et habité par les mœurs et les cultures paysannes. Et le savez-vous, le 29 septembre était, dans ces cultures paysannes-là, jusqu'à un moment que j'ai parfaitement bien connu, le premier de l'an. Et il était le premier de l'an, pourquoi ? Parce que c'était ce jour-là que se signaient les baux de métayage, les baux de fermage, et c'était ce jour-là que, éventuellement, les propriétés agricoles changeaient de main. Et pourquoi le 29 septembre ? Eh bien, pour la raison suivante. Parce qu'à cette date, les moissons, l'orge, l'avoine, le blé, étaient déjà engrangées, que les vendanges venaient de s'achever, que le vin était à peu près mis en tonneau, que la plupart des fruits étaient désormais cueillis, sauf les pommes, mais les pommiers étaient fructifiés dans des pays d'Oyle, comme la Normandie. Et du coup, surtout pendant les années de vaches grasses, les silos et les celliers regorgeaient de ressources. C'était le jour de la fin des ressources de l'année précédente. Mais cette date était une date charnière pour une deuxième raison. Parce qu'à cette date, les labours n'étaient pas encore commencés, que la préparation de la terre n'était pas encore entamée, et que les jachères et les chaumes restaient toujours non travaillés. Et ces travaux à venir ouvraient donc une saison nouvelle que de nouvelles mains pouvaient entreprendre d'une nouvelle façon. Et toutes ces nouveautés, qui étaient quelquefois mieux travaillées, faisaient voir que la terre avait toujours de la ressource. Et vous avez senti que le 29 septembre, la Saint-Michel, qui était pour nous le premier de l'an agraire, était le seuil entre deux saisons, le passage entre deux tenanciers, la passation entre deux signataires, le repos temporaire entre deux états de la terre, et enfin la bifurcation entre les deux sens du mot « ressource » dans la langue française. Le stock d'une part et la promesse de l'autre. Voilà donc un mot, ressource, qui a deux sens, qui signifie d'un côté les réserves, celles qui se tiennent devant nous à disposition, en stock, dans le silo et le cellier, dans la cave ou dans le grenier, et tout autour de nous, dans la planète, mais qui veut dire aussi un second sens plus aigu encore et peut-être plus profond, la reprise après une chute, les relevailles après une maladie, le ressourcement après l'épuisement, le ressaut après l'accident ou le rebond après la crise. Cet autre sens me paraît intéressant à creuser encore. Pourquoi ? Parce qu'après une crise, après une maladie, après un échec, après une catastrophe, la guérison, et les médecins et les biologistes le savent mieux que moi, la guérison n'est jamais un retour au statu quo ante. Pourquoi ? Parce que si c'était un retour au statu quo ante, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il était bien clair que le statu quo ante reviendrait à la chute, reviendrait à la maladie, reviendrait à la crise. Et cela est vrai aussi bien dans les sciences politiques que dans la guérison d'une maladie. Et par conséquent, la ressource au second sens est un sens tellement profond qu'il me fait penser au fait que l'organisme est capable d'inventer un nouvel état de la vie après la maladie. Il faut bien qu'elle invente un nouvel état, car elle ne peut pas revenir au statu quo ante. Et dès lors, ce second sens du mot « ressource » me paraît très très profond parce qu'il donne une promesse d'une invention absolument inattendue et probablement imprévisible. Donc il y a la ressource, le stock qui est là, et d'autre part la ressource au sens de la promesse, de l'invention, de quelque chose d'inattendu qu'on pourrait inventer et que vous, en tant qu'institut, vous allez inventer. Et je en voudrais pour preuve que la traduction qu'on peut faire de ce mot-là dans la langue de nos amis qui pratiquent la langue anglaise, puisque nos amis anglais, ou ceux qui pratiquent cette langue, ont emprunté à la langue française le terme qui désigne pour eux le premier sens, « resources », mais ils ont pris la langue latine, vous savez que l'anglais est souvent plus proche du latin que le français, le mot pour dire le second, et ils disent « resilience » pour dire le rebond, le ressaut, le rebondissement. Vous voyez, les deux sens sont pour vous très importants à creuser. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il y a d'un côté le passé ou l'état des choses, et de l'autre côté, le travail que nous avons à entreprendre. Voyons. Et pourquoi cette différence dans les mots ? Le Rhône pour Lyon, le Danube pour vous, Johann, la Garonne pour moi, sont des fleuves qui ont une source. Et le fleuve coulant toujours, ces trois sources paraissent infinies. Eh bien, vous avez comme moi sans doute visité parfois des sources de fleuves, de la Garonne, de la Rhône ou Danube, et vous vous êtes aperçu certainement que l'eau qu'elle paraît donner, cette source-là, elle la reçoit pourtant de l'amont, elle la reçoit d'un névé proche, d'un glacier lointain, des eaux ruisselantes dans les prés de la montagne, et que par conséquent, la source n'est pas vraiment une source, puisqu'elle reçoit comme une embouchure des eaux précédant ce point-là. Et par contre, cette source, dans ce cas-là, eh bien voilà, c'est une ressource. C'est la seconde source. Ce n'est pas elle qui donne l'eau principale, elle la reçoit de l'amont et elle la donne à l'aval. Et du coup, cette source-là est une ressource dans les deux sens que nous avons donnés. C'est bien le stock à partir duquel le fleuve coule, mais c'est aussi cette espèce de point dans un cycle donné, dans le cycle de l'évaporation du fleuve, des nuées qui se forment et qui retombent en précipitation sur la montagne. Et ce point-là, c'est simplement un point singulier dans le cycle en question. Réfléchissons maintenant sur ce cycle. Toute ressource, donc, tourne comme cette source, qui est un point singulier dans le courant d'un cycle dont la plupart est finie. Mais ces cycles-là peuvent durer des centaines, des milliers, des millions d'années. L'énergie solaire en induit de brefs, ceux du jour, ceux du feuillage, mais d'autres plus ou moins longs, comme le climat, comme la houille, comme le pétrole, et ainsi de suite. Mais tous sont des cycles finis. Même les cycles induits par notre étoile, qui est destinée à sa nova dans quelques milliards d'années. Nous ne connaissons dans le monde que des cycles finis, même si certains s'expriment par des grands nombres. Et c'est une découverte nouvelle. Autrefois, mes professeurs disaient la philosophie suivante, que l'homme était un être fini dans un monde infini. Nous avions devant nous un monde tel que nous pouvions l'exploiter à loisir, comme si jamais il s'arrêterait de fournir des ressources. Or, nous avons découvert que les cycles dont je parle sont des cycles finis. Et qui sommes-nous, nous, en tant que ressources humaines ? Eh bien voilà, je crois que seuls sont à l'infini notre désir, notre savoir, notre volonté, nos haines, nos concurrences, nos compétitions, les guerres sans trêve, en tout, pour le pire et le meilleur, les projets humains. D'où un retournement extraordinaire en philosophie. Jadis, en effet, on nous enseignait que l'homme était un être fini dans un monde infini, et aujourd'hui, nous vivons cette évidence qui est un retournement inouï dans une antique croyance. Nous nous découvrons infinis dans un monde fini. Et toute la question des ressources aujourd'hui concerne ce quotient, si difficile à penser, si malaisé à maîtriser, entre ce fini objectif, disponible, évolutif, voire raréfié, et l'infini, subjectif et collectif de nos sciences plus ou moins sages et parfois de nos folies mortelles. Eh bien voilà. Ce quotient, c'est votre problème, c'est le problème sur lequel vous allez travailler dans l'Institut et la question sur laquelle vous allez sans doute nous proposer un jour des solutions. Un monde fini, une humanité aux désirs infinis. Reste qu'au beau milieu de ce fini naturel, inerte ou vivant, et cet infini humain que je viens de décrire, vient d'apparaître, disons depuis 30 ans, des ressources nouvelles qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas tout à fait humaines, qui sont à la fois naturelles et humaines, que j'appellerai logicielles, des ressources concernant les accès, nos accès aux ressources naturelles, inertes ou vivantes. J'ai appelé Petite Poucette l'héroïne des temps contemporains. Et je lui ai donné ce nom-là parce qu'avec les deux pouces, elle a une habileté extraordinaire à tracer des textos à une vitesse que je ne pourrais jamais atteindre. Je suis un vieillard et presque un illettré de Petite Poucette. Et cette Petite Poucette vient d'inventer, puisque je parle beaucoup des mots, de leurs racines et de leur sens, c'est mon métier. Je crois que Petite Poucette vient d'inventer réellement le nouveau sens d'un adverbe de temps. Et cet adverbe de temps, qui signifie le présent, en langue française, c'est « maintenant ». Et « maintenant » signifie le présent. Non. Petite Poucette vient d'inventer que « maintenant » signifie exactement ce que ce mot veut dire « tenant en main ».« Maintenant, tenant en main le mot ». Et en effet, Petite Poucette, avec son portable doué de l'ordinateur, tient en main. Et elle tient en main quoi ? Elle tient en main, disons, trois accès. Trois accès à des ressources. Le premier accès, c'est l'accès aux personnes. Elle peut appeler sur le portable quiconque. Je m'arrête un moment ici, je vous prie, pour faire quelque peu des mathématiques. Je suis dans le pays de M. Villani, je peux m'adonner quand même à des mathématiques. Vous savez qu'il existe un théorème récemment découvert de mathématiques statistiques qui s'appelle le théorème du petit monde. Et ce théorème du petit monde résout la question suivante. Si on prend un quidam, n'importe qui dans la rue, par exemple quelqu'un qui passe à la rue à côté, et qu'on calcule en combien d'appels il peut toucher un quidam, n'importe lequel, à Shanghai ou à Sydney, on a découvert, statistiquement parlant, qu'il lui suffit de 7 appels. 7. Mais que depuis les nouvelles technologies et les grands connecteurs comme Facebook, le chiffre de 7 vient de tomber brutalement à 4. C'est-à-dire qu'en 4 appels, n'importe qui dans le monde peut appeler n'importe qui. Par conséquent, ce monde, dont vient de parler Monsieur le Préfet, ce monde mondial, est tout d'un coup restreint à 4 appels, c'est-à-dire une petite famille, c'est-à-dire une petite commune, un bourg, un petit bourg paysan de rien du tout, de 4 ou 5 maisons. Et par conséquent, maintenant, tenant en main le monde, Petite Poucette tient en main l'accès à tout le monde en 4 appels. Ce qui est une nouveauté extraordinaire concernant l'accès aux ressources humaines. D'autre part, elle tient l'accès à n'importe quel lieu, puisqu'avec le GPS, elle peut repérer n'importe quel lieu où elle n'est jamais allée et où peut-être elle n'ira jamais. Et par conséquent, elle tient le lieu. Et d'autre part, et pour finir, par Wikipédia et autres lieux, elle tient en main toute l'information imaginable. Les humains, les lieux, l'information. Voilà des ressources inattendues qui ne sont pas tout à fait les ressources biologiques ou inertes dont j'ai parlé pour commencer, qui ne sont pas tout à fait les ressources infinies dont j'ai parlé aussi concernant le sujet ou le collectif, mais des ressources qu'il est intéressant d'interroger à nouveau. Alors je reprends. Si Petite Poucette peut dire aujourd'hui, maintenant, tenant en main le monde, je pose la question de savoir qui pouvait le dire jadis. Eh bien, c'est très simple. Auguste, empereur de Rome, pouvait à la rigueur dire « maintenant, tenant en main le monde ». D'ailleurs, je crois que Pierre Corneille, dans Cinna, lui fait dire « je suis maître de moi comme de l'univers ». Très bien, Auguste. Auguste, je ne sais pas, quelque pape, quelque tyran, quel empereur, quel roi soleil, etc. Quelque richissime, peut-être, quelque expert extraordinaire. Mais aujourd'hui, 3 750 millions de personnes peuvent dire « maintenant, tenant en main le monde ». Voilà une ressource humaine, technologique, voilà une ressource peut-être inattendue, sur laquelle aussi il faudrait peut-être travailler, qui promet alors, au point de vue de la ressource au second sens, qui promet peut-être une autre démocratie, une autre façon de vivre ensemble, une autre façon d'avoir des relations humaines, et peut-être aussi, lointainement parlant, une autre politique. Merci beaucoup.